Le journal Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas de majorité parlementaire en Suède. Les formations politiques s'engagent dans de fastidieuses négociations pour former une coalition gouvernementale. Et l'extrême droite sort renforcée des élections législatives d'hier. Analyse d'Élise Delève dans un instant. Nouvelle mesure de rétorsion américaine à l'encontre des Palestiniens. Les États-Unis ferment le bureau de la représentation palestinienne à Washington. Richard Ferrand devrait succéder à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée. Il a obtenu l'investiture du groupe des députés La République En Marche au premier tour. Pas de suppression d'emplois au sport, mais une réflexion sur l'évolution des 1600 postes de conseillers techniques sportifs rémunérés par l'État. La nouvelle ministre, Roxana Maracineanu, rassure un peu les fédérations sportives. Au lendemain des élections législatives, la Suède s'engage dans une période d'incertitude. Les coalitions de gauche et de droite sont au coude à coude. Le bloc formé par le Parti social-démocrate au pouvoir, les Verts et le Parti de gauche est crédité de 41% des suffrages, contre 40% pour l'Alliance des chrétiens démocrates, des libéraux, des modérés et du Parti du centre. De longues négociations seront donc sans doute nécessaires pour parvenir à former un gouvernement. Quant aux démocrates de Suède, eurosceptiques et hostiles à l'immigration, ils recueillent 17,6% des voix, soit près de 5 points de plus qu'en 2014, et il passe de 49 à 62 sièges. Élise Delève, vous avez suivi ces élections législatives suédoises. Les démocrates de Suède ne sont certes pas devenus la première force politique nationale, comme certains le prédisaient, mais leur progression montre qu'ils se sont durablement implantés dans le paysage politique.
Nous aurons une grande influence dans les semaines, les mois et les années à venir. Dès l'annonce des résultats hier soir, Jimmie Åkesson, le leader des démocrates de Suède, s'inscrit dans la durée. Et plusieurs chiffres lui donnent raison. À chaque élection, le score du SD ne fait qu'augmenter. En 8 ans, il a tripler ses voix. Entre 2014 et aujourd'hui, un Suédois sur 10 a changé de parti, notamment des conservateurs vers les démocrates de Suède. Enfin, 86% des électeurs qui ont choisi SD aux précédentes législatives ont à nouveau voté pour lui hier. Le parti séduit, s'enracine et ne connaît pas l'érosion. Le thème de l'immigration au cœur de ces élections devrait continuer à occuper le débat public. La Suède a un problème d'intégration, concèdent les spécialistes. Elle n'arrive pas à assimiler les populations arrivées récemment du Moyen-Orient et d'Afrique. Les vieux partis sont responsables de cette ségrégation, a répété Åkesson pendant la campagne. On veut à présent prendre nos responsabilités et on a un plan pour ça.
Élise Delève à Stockholm avec Clémence Bonfils à la technique. En Allemagne, un nouveau rassemblement doit se tenir ce soir à Köthen, cette commune de Saxe-Anhalt où un homme est mort lors d'une bagarre dans laquelle seraient impliqués deux Afghans. Les autorités du Land ont appelé au calme, mais les autorités locales redoutent des violences. L'extrême droite allemande s'était déjà saisie d'un autre homicide à Chemnitz pour organiser plusieurs manifestations et au fil des rassemblements et des jours, la parole se libère. Hier, des slogans nazis ont été proférés à Köthen. La correspondance de Ludovic Piétenu.
Les discours étaient effrayants, témoigne impuissant le maire social-démocrate de Köthen. Celui qu'on a beaucoup entendu hier soir est un militant néo-nazi, David Köckert, déjà condamné pour incitation à la haine raciale. Un homme au visage presque entièrement tatoué, chef de Tugida, l'équivalent dans le Land de Thuringe du mouvement islamophobe Pegida, en Saxe, présent donc aussi dans les rassemblements de Chemnitz. Avec le parti AfD, ce sont les mêmes réseaux qui s'activent pour réclamer plus de sécurité et d'ordre, tout en semant le désordre. Exemple hier soir, David Köckert dénonce une guerre raciale en cours contre les Allemands. Pour se défendre, il invoque la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, un appel à se faire justice soi-même en allant, je cite, chercher les étrangers dans toutes les maisons. Un appel explicite à un nouveau pogrom, la police de la région de Saxe-Anhalt vient d'annoncer qu'elle enquêtait sur le contenu du discours d'hier soir. Mais le même genre de discours a déjà été entendu à Chemnitz et sans aucune conséquence jusque-là, ce qui conduit une partie des Allemands à s'interroger sur le respect de la Constitution et sur celui censé la protéger, un certain monsieur Massen, l'homme dont on sait qu'il goûte peu à ce qui fut la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel il y a 3 ans, apparaît pour bon nombre d'éditorialistes désormais comme le mauvais homme à la mauvaise place. Le quotidien Handelsblatt suggère, document à l'appui, que son administration est poreuse à certains de ses groupes radicaux et à l'AfD, et que ces groupes ont accès à des données sensibles. Ce genre de révélation n'est pas une première, mais il vient alimenter le débat à un moment très critique pour la démocratie allemande.
Ludovic Piétenu à Berlin. L'Italie fait marche arrière sur l'ouverture des magasins le dimanche. L'ouverture illimitée des magasins et des centres commerciaux avait été décidée par le gouvernement de Mario Monti en 2011 dans le but de relancer la demande et donc l'économie italienne. Mais l'alliance Ligue Mouvement des 5 étoiles a décidé de rétablir le repos dominical pour tous au nom de la défense de la famille, Olivier Tosseri.
Oui, Luigi Di Maio, le ministre du Travail et leader du mouvement 5 étoiles, accuse même l'ouverture dominicale de détruire les familles avec des parents qui n'ont plus le temps de voir leurs enfants. Pour l'Église catholique, cette déclaration est une grâce de Dieu, comme l'a affirmé un archevêque. Pour les représentants des petits commerçants, c'est un coup de pouce pour les aider à résister aux grandes surfaces. Pour ces dernières, en revanche, c'est une erreur qui va pénaliser la croissance italienne, qui est déjà deux fois moins importante que celle de ses voisins européens. Elle estime qu'environ 40 000 emplois sont à risque. Le dimanche, c'est le deuxième jour de la semaine où les ventes sont les plus importantes. 12 millions d'Italiens font chaque année leurs courses le dimanche. Ils ne pourront bientôt le faire que 8 fois par an, les 4 dimanches du mois de décembre, plus 4 autres dimanches qui seront fixés avec les différentes régions. Les villes touristiques ne seront pas concernées par cette mesure qui doit être adoptée d'ici la fin de l'année, promet le gouvernement. D'ici là, ses opposants promettent de ne faire prendre à la polémique aucun jour de repos.
Olivier Tousséri en direct de Rome. Et l'Italie change également de politique au sujet des vaccins. Pour lutter contre les épidémies, faut-il obliger la population à se vacciner? La réponse a été oui, puis non, et maintenant oui mais. Le débat entre partisans de l'obligation et anti-vaccins est aussi vif que dans l'Hexagone. Et la nouvelle majorité au pouvoir, qui avait suspendu l'obligation de vaccination pour la crèche et la maternelle, l'a rétablie la semaine dernière. Mais la ministre de la Santé, issue du mouvement 5 étoiles, promet maintenant une loi d'obligation flexible. Pas facile de s'y retrouver, Mathilde Imberti.
À l'origine de ce pataquès, une loi pourtant claire, adoptée sous l'ex-gouvernement de centre-gauche, qui a rendu 10 vaccins obligatoires contre 4 auparavant. La loi dite Lorenzin est entrée en vigueur il y a un an, avec l'appui du corps médical. Le docteur Alberto Villani préside la Société italienne de pédiatrie.
Avant cette loi, si on prend la rougeole par exemple, nous avions des niveaux de couverture vaccinale de l'ordre de 85% en Italie. 7 personnes en sont mortes en 2017, 4 depuis le début de cette année. Grâce à la loi Lorenzin, aujourd'hui, nous avons atteint un niveau satisfaisant. Maintenant, ce qui se passe en Italie se vérifie ailleurs. En France aussi, où la loi Lorenzin a été copiée. Ce qui se passe, c'est qu'une minorité hostile au vaccin se manifeste. Ils font du bruit, mais restent très minoritaires.
Les anti-vaccins, ou simplement les parents sceptiques, ont trouvé un relais politique avec l'arrivée au pouvoir de la coalition Ligue 5 étoiles, qui, sur le sujet, tombe d'accord, un assouplissement est nécessaire. En attendant cette nouvelle loi, les parents doivent montrer patte blanche, en théorie, lors de la rentrée des classes. Si leur enfant n'est pas vacciné à 6 ans, âge de la scolarité obligatoire, ils sont passibles d'une amende, en théorie. Car dans les faits, il est facile de déjouer l'administration. Delfaux, par exemple, joue la montre en multipliant les courriers réclamant des informations sur les effets des vaccins. Il ne les obtient pas et inscrit sans conséquence aucune ses enfants de 6 et 8 ans à l'école publique à Rome sans les avoir vaccinés.
Quand mon fils avait
À l'âge de 8 mois, mon fils a eu des pertes d'attention. Il regardait un point fixe sans bouger. On a fait le rapprochement avec les vaccins. La question, c'est pourquoi, en tant que parent, devrais-je administrer un médicament à mon enfant qui est en bonne santé ? On ne jure que par les vaccins pour lutter contre ces maladies, sans investir ailleurs. Moi, ça me va si on vaccine tout le monde quand il y a une vraie épidémie. Mais avant ça, je voudrais qu'on détermine si certains enfants peuvent réagir plus que d'autres aux vaccins et à certaines maladies.
D'un côté, des parents qui, comme Delfaux, préfèrent courir le risque d'attraper une maladie. De l'autre, une majorité d'Italiens qui se plie à la loi. Et puis, dans ce débat très vif, une catégorie se fait entendre également. Les parents d'enfants non vaccinables, mais fragiles.
Je suis Laura, la maman de Davide, 6 ans. Il a été greffé du foie quand il avait 9 mois. Depuis, il ne peut plus recevoir de vaccin. Il est immunodéprimé, pour lui c'est trop risqué. En même temps, le moindre virus est dangereux pour ses enfants. On n'a pas le choix, on doit compter sur les autres. J'espère que cette année, il sera dans une classe où tous les enfants seront à jour.
Laura a signé une pétition pour le maintien de l'obligation vaccinale. Elle craint le retour à un système moins contraignant avec la nouvelle loi en préparation, un texte à l'agenda du Parlement italien qui rouvrira nécessairement de féroces discussions.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture en Italie. L'Italie n'accepte de leçons de personne, déclare le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Il réagit aux critiques formulées par la nouvelle haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, la chilienne Michelle Bachelet. Dans son premier discours, prononcé en ouverture de la 39e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle a dénoncé les murs érigés contre les migrants et pointé en particulier la décision de fermer les ports italiens aux navires ayant secouru des migrants. Michelle Bachelet qui a également dénoncé le traitement des minorités en Birmanie et en Chine, Nadine Epstein.
Oui, après avoir assuré qu'elle écouterait toujours les préoccupations des États et qu'elle rechercherait le consensus, la nouvelle haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé qu'elle avait accepté de rencontrer demain le ministre vénézuélien des Affaires étrangères avant qu'il ne s'exprime devant le Conseil à Genève. Michelle Bachelet n'a pas mentionné le Venezuela dans son discours d'ouverture, faute de temps sûrement, dans la liste des pays en crise urgente. Elle s'est inquiétée du sort de la minorité Ouïghour qui serait détenue dans des camps de rééducation dans la province de Xinjiang et elle demande à la Chine de permettre au Haut-Commissariat d'avoir accès à toutes les régions. Autre minorité en danger, les musulmans de Birmanie qui ont fui au Bangladesh et l'ex-présidente chilienne a appelé à la création d'un organe international chargé de réunir les preuves sur les crimes commis contre les Rohingyas. Michelle Bachelet a ensuite évoqué le Yémen, souhaitant que l'Arabie Saoudite et sa coalition rendent des comptes sur les bombardements qui ont tué des dizaines de personnes civiles, dont des enfants. Enfin, elle a parlé, vous l'avez mentionné, des réfugiés et dénoncé la manière dont la plupart des pays occidentaux gèrent cette question. Elle a pointé les 500 enfants séparés de leur famille à leur arrivée aux États-Unis, critiqué l'Italie de fermer ses ports et la Hongrie qui refuse que la nourriture soit apportée aux personnes détenues dans des zones de transit à la frontière hongro-serbe. Enfin, Michelle Bachelet a indiqué que son bureau enverrait des équipes en Autriche et en Italie pour évaluer la situation des migrants.
Nadine Epstein et l'ONU soulignent la tension croissante dans la province syrienne d'Idleb. Depuis le début du mois, les bombardements du régime syrien et de son allié russe ont déjà entraîné le déplacement de plus de 30 000 personnes. Et selon le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Idleb pourrait devenir la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Les États-Unis ont décidé de fermer la représentation de l'OLP à Washington, qui est en quelque sorte l'ambassade officieuse des Palestiniens. L'annonce vient d'être formalisée par le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton. 25 ans après la signature des accords d'Oslo, matérialisée par la poignée de main sur la pelouse de la Maison-Blanche entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, encouragée par Bill Clinton, cette décision s'inscrit dans une série de mesures radicales prises par Donald Trump pour contraindre les Palestiniens à accepter un plan de paix à ces conditions, Claude Guibal.
À son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump l'avait promis, il serait l'artisan du deal du siècle, le premier président américain à résoudre le conflit israélo-palestinien. Oui, mais à sa manière. Et la fermeture du bureau de l'OLP à Washington n'est en fait que la suite du bras de fer engagé après l'annonce en décembre dernier du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Décision qui avait provoqué la fureur des dirigeants palestiniens qui avaient rompu les liens avec les États-Unis en leur reprochant d'être sortis de leur rôle de médiateur en devenant partie prenante au conflit et en épousant les revendications israéliennes. Pour contraindre les Palestiniens à revenir à la table des négociations pour les punir de ce qu'ils qualifient aussi de manque de respect, Donald Trump a d'abord utilisé l'arme de l'argent en stoppant l'aide financière aux Palestiniens, les subventions aux hôpitaux de Jérusalem-Est par exemple, mais surtout en coupant l'aide à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée d'aider les 5 millions de réfugiés palestiniens, une agence jugée nuisible par la droite israélienne et par Donald Trump car elle aiderait selon eux les Palestiniens à maintenir l'idée d'un droit au retour des réfugiés, la question la plus épineuse des négociations de paix, une question sur laquelle l'OLP ne peut pas transiger car elle enterrerait tous les espoirs qui ont porté les Palestiniens depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël.
Claude Guibal. L'Assemblée nationale doit désigner son nouveau président mercredi et l'issue du vote ne fait plus guère de doute. Le poste va logiquement revenir à Richard Ferrand, d'ores et déjà investi par les députés La République En Marche. Réunis en congrès à Tours, les députés de la majorité l'ont élu au premier tour, loin devant sa première concurrente, l'ancienne secrétaire d'État Barbara Pompili. Vous avez suivi le scrutin, Alexandra Dubouchereau.
Le député du Finistère recueille un peu moins de 2/3 des suffrages exprimés, 187 voix sur 291. C'est donc une vraie revanche pour ce marcheur de la première heure, promis un brillant avenir en Macronie, mais rattrapé par l'affaire des mutuelles de Bretagne et contraint de quitter son fauteuil de ministre au bout de 4 petites semaines. Richard Ferrand, c'était le choix d'Emmanuel Macron, choix respecté donc, même si lui y voit d'abord un vote d'adhésion.
La campagne interne s'est déroulée dans un climat fraternel, dans la clarté, dans la transparence. J'ai remercié mes collègues de ce vote qui atteint 65%, vote de confiance, vote au fond d'adhésion aux propositions que j'ai pu faire.
En face de Richard Ferrand, Barbara Pompili était la seule vraiment de taille. Elle obtient 29% des suffrages exprimés. Un résultat plus qu'honorable qui lui donne des ailes.
J'ai reçu tellement de messages de soutien du terrain, des citoyens, aussi des marcheurs et puis de collègues députés que bien évidemment je vais continuer cet énorme combat pour la transformation. Et puis dans le contexte, je trouve que j'ai fait un très beau score et j'en suis très fière.
À la question « Vous rangez-vous derrière Richard Ferrand ?», réponse laconique de celle qui semble désormais décidée à continuer son combat de l'intérieur avec ses 85 soutiens. Quant aux deux autres candidats, ils ne recueillent que 15 et 4 voix. La question maintenant, c'est qui remplacera Richard Ferrand à la tête du groupe La République En Marche, poste difficile voire ingrat, et pourtant ils seraient nombreux à en vouloir. Laetitia Avia, la numéro 2 du parti, et Roland Lescure, député des Français de l'étranger, seraient les grands favoris, murmure-t-on ici.
Alexandra Dubouchron avec Olivier Branger à la technique. À peine arrivée, elle a voulu montrer sa combativité. La nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a revu le Premier ministre Édouard Philippe ce matin pour discuter de la lettre de cadrage qui prévoyait des suppressions de postes chez ses agents. Finalement, assure la ministre, aucun des 1600 conseillers techniques sportifs ne perdra son emploi, même si le mode de gestion de ces agents rémunérés par l'État et répartis dans des fédérations pour appuyer le mouvement sportif va évoluer. Les déclarations se veulent donc rassurante. Mais ce soir, l'inquiétude n'est pas complètement dissipée. À la Fédération française de judo, par exemple, le président Jean-Luc Rouget se demande comment faire dans les années qui viennent, car beaucoup d'efforts ont déjà été faits pour une meilleure gestion de l'encadrement.
Il faut savoir que notre fédération avait, donc il y a une quinzaine d'années, on avait 82 postes. Aujourd'hui, on en a 54. Donc il y a quand même déjà des coupes sombres qui ont déjà été faites. On est bien sûr conscient aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse tous un effort, mais un effort comme ça, c'est impossible, surtout dans le cadre des Jeux Olympiques. Vous avez vu, hein, sur le tapis de judo, s'entraînent autour de nous, bien, tous ceux qui sont autour, ce sont des gens qui s'occupent de Paris 2024, qui préparent les équipes de France pour les championnats du monde. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui, ces cas techniques. Ce sont des champions du monde, des champions olympiques. C'est aussi une manière pour les athlètes de haut niveau d'avoir une reconversion. C'est pas uniquement pour le haut niveau. Hein. Donc nous avons aussi dans les quartiers sensibles des choses à faire. Nous avons pour l'insertion des choses à faire. Nous avons pour la féminisation du sport des choses à faire. Nous avons pour le handicap des choses à faire. Et par exemple, on nous a donné une délégation supplémentaire à l'handicap. Mais avec quel moyen en plus ? Zéro. Avec quel cadre en plus ? Zéro également. Donc ça fait beaucoup.
Jean-Luc Rouget, président de la Fédération de judo, au micro de Jean-Pierre Blimeau. Jean-Vincent Placé, condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende pour violence et outrage. L'écologiste, ancien secrétaire d'État, avait été accusé d'avoir importuné 2 jeunes femmes dans un bar parisien en avril dernier, avant d'injurier le portier et des policiers. Le tribunal l'a relaxé des accusations d'injures à caractère racial. À la cour d'assises de Paris se poursuit le procès de 3 militants de l'ultra-droite pour la mort du militant antifasciste Clément Méric. L'audience d'aujourd'hui a été consacrée au premier interrogatoire sur les faits des 3 accusés. Compte rendu d'audience de Florence Turme.
Patiemment, la présidente décortique cet après-midi du 5 juin 2013. À la barre, le buste penché vers l'avant, les mains sur les hanches, Alexandre Hérault, l'un des 3 accusés, livre sa version de la première rencontre avec le groupe de Clément Méric dans l'une des salles du 2e étage de la vente privée. Et cette menace, lancée par l'un des amis de la victime, de les attendre à la sortie, « N'achetez pas trop de choses, vous allez devoir courir ». Des paroles que vous prenez au sérieux, interroge la présidente. « Oui, on a regardé par la fenêtre et on a vu le groupe se fixer en bas ». Sur le trottoir. Les questions se resserrent. Si vous avez peur, pourquoi partir à gauche vers le groupe en question plutôt que d'aller à droite comme le vigile vous l'a conseillé ? C'était plus sûr que de prendre le risque d'avoir des gens dans le dos. Ce matin, sa petite amie de l'époque a livré une version quelque peu éloignée de l'inquiétude dépeinte par les 3 anciens skinheads. C'était aussi une question de fierté, rentrer chez soi sans faire de détour. Au fil de l'audience, les explications peuvent sembler futiles, souvent laborieuses, avec le sentiment que le procès piétine. À ce stade, les débats n'ont toujours pas permis de répondre à 2 questions essentielles. Qui a porté les premiers coups ? Et Samuel Dufour a-t-il fait usage d'un point américain? Lui et ses amis soutiennent que non, les témoignages divergent et les experts légistes qui ont procédé à l'autopsie ont encore expliqué ce matin n'avoir aucune certitude à ce sujet.
Florence Turme au Palais de Justice de Paris. Et puis une spectaculaire intrusion sur les pistes de l'aéroport de Lyon a entraîné l'interruption du trafic pendant plusieurs heures. Un homme de 31 ans a été arrêté. Il avait forcé les barrières de sécurité de l'aéroport et cherché à pénétrer sur le tarmac. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête de flagrance, notamment pour tentative de meurtre en bande organisée. Enquête qui a été confiée à la police judiciaire. L'homme serait atteint de troubles psychiatriques. Du soleil et des températures en hausse demain mardi. Le matin, il fera entre 9 et 22 degrés. L'après-midi, 21 à 28 des côtes de la Manche au Nord-Pas-de-Calais. 27 à 32 sur le reste du pays, jusqu'à 34 en Provence. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.